Les discussions du soir. Les discussions du soir, chaque vendredi, l'écrivain Régis Debray interroge les rapports de force internationaux.
Ce soir, avec Jean-Louis Gergorin, cofondateur et directeur du Centre d'analyse et prévision du Quai d'Orsay, conseiller stratégique du ministre des Affaires étrangères à ce titre. Oui, mon cher Jean-Louis Gergorin, vous avez donc été entre les années 79 et 84, si je ne me trompe, à la tête de ce centre d'analyse et prévision du Quai d'Orsay. C'est bien d'ailleurs ce qui m'intéresse, outre les diverses fonctions que vous avez eues après. Donc, on peut dire, Gergorin, conseiller du prince politique, ensuite du prince industriel. Donc, je dirais un influenceur. Un influenceur n'est pas un phraseur. Un influenceur vise le concret. Il est en rapport avec le décideur. Et j'aimerais que, avec vos souvenirs, vous nous disiez comment ça se passe concrètement, l'effet d'une pensée sur une action. C'est-à-dire sur des décisions politiques.
Je crois que la meilleure façon de vous répondre, Régis, c'est de parler, de donner des exemples concrets. Et je vais donner, si vous voulez, un exemple sous la période de Valéry Giscard d'Estaing et un exemple sous la période de François Mitterrand, puisque j'ai eu la chance et l'honneur d'être directeur adjoint puis directeur du centre d'analyse de prévision sous Giscard et ensuite d'avoir continué dans ses fonctions pendant 3 ans sous François Mitterrand et Claude Chesson comme ministre.
C'est d'ailleurs dans cette fonction-là que je vous ai connu.
Absolument, juste au début du mandat de François Mitterrand. L'exemple que je voudrais donner, c'est un changement de politique parce qu'il y avait une politique traditionnelle en matière de prolifération nucléaire. La politique française, traditionnellement, en matière de prolifération nucléaire, dans les années, 1970, fin des années 60, début des années 70, était influencée par la difficulté que la France avait eue à constituer sa force de dissuasion nucléaire. Les États-Unis avaient tout fait pour bloquer la capacité nucléaire de la France, notamment interdisant la vente de gros ordinateurs au début des années 60. Et la France a construit sa dissuasion contre les États-Unis, en tout cas sous les présidents Kennedy et Johnson. Ensuite, le président Nixon, qui admirait beaucoup le général de Gaulle, a au contraire, avec évidemment les conseils d'Henry Kissinger, totalement reconnu l'utilité et l'importance de cette force de dissuasion. Mais il est resté de cette période un sentiment qu'avait la France, que la prolifération nucléaire, au fond, c'était pas un problème et que les politiques de lutte contre la prolifération nucléaire devaient être combattues puisque nous avions été victimes, en quelque sorte, de cette politique.
Oui, il faut rappeler que c'était l'orientation gaullienne à l'époque.
Je ne suis pas d'accord avec vous, Régis, là-dessus. De Gaulle privilégiait l'intérêt de la France. L'intérêt de la France, c'était d'avoir l'arme nucléaire, mais ce n'était pas certainement pas, et c'était très clair déjà du temps du général, que tout le monde ait l'arme nucléaire.
Ah, mais on est bien d'accord. Non, mais c'est bien ce que je voulais dire. De Gaulle voyait avec réserve tout ce qui relevait du contrôle des armements, sécurité collective, etc.
Oui, mais ce n'était pas non plus une politique, disons, d'être indifférente au fait que d'autres puissent acquérir l'arme nucléaire avec notre concours ou notre neutralité bienveillante. Il avait d'ailleurs mis fin, quand il est arrivé, à un accord de coopération signé sous la 4e République de partage de secrets nucléaires à la limite du militaire, au moins, avec Israël, ça c'est connu, et avec l'Allemagne, ce qu'il est moins. Et de Gaulle a mis fin à cette coopération dès son arrivée aux affaires. Au début, lorsque je reviens donc à la situation que j'ai vécue, donc ça se passe en 1975, lorsque, au début du mandat de Giscard, les Américains ont commencé une campagne très vive pour lutter contre la prolifération nucléaire, en visant d'ailleurs à l'époque le Pakistan, où la France devait livrer une usine de retraitement qui aurait permis au Pakistan de développer encore plus vite sa capacité nucléaire grâce au plutonium extrait. Donc il y avait une pression très vive et il fallait reprendre... il y avait deux tendances au sein du Quai d'Orsay. Il y avait les atlantistes, bon, minoritaires à l'époque, ils ont beaucoup cru depuis, qui souhaitaient évidemment s'entendre avec les Américains. Et puis il y avait la tradition majoritaire qui consistait à dire indépendance nationale, on a toujours été contre les politiques de prolifération, c'est une atteinte à la souveraineté nationale, on n'a pas à participer à cet effort collectif, ou d'ailleurs auquel les Soviétiques avaient accepté de participer.
Tradition alors majoritaire, faut-il le préciser. J'aimerais qu'on dise un mot tout de même, vous allez continuer, mais j'aimerais qu'on dise un mot tout de même. Dans quel esprit a été créé le CAP, Centre d'analyse et de prévision ?
D'abord, l'origine historique, c'est qu'il y avait eu, au sein du Quai d'Orsay, les grands ministères des Affaires étrangères, dont le premier était les États-Unis, ont créé des centres de réflexion stratégique et de planification. Le premier centre de planification, Policy Planning en anglais, était créé par George Kennan, le stratège de la guerre froide, en 1948-47 aux États-Unis, à peu près au moment où il a fait sa fameuse note définissant la stratégie du containment. Et curieusement, le Quai d'Orsay n'a jamais voulu se doter de... Il y a eu plusieurs tentatives et les réticences de l'administration, des grandes directions, du directeur politique ont bloqué ce type de tentative.
Pourquoi ?
Parce que c'était la vision, c'est que la diplomatie, il y a des responsabilités, il y a des directeurs géographiques, c'est à eux d'apprécier la situation, il y a les télégrammes des ambassadeurs, c'est la meilleure des sources possibles, il y a le directeur politique qui fait la synthèse, et cette idée d'une cellule qui prend un peu de recul, essaye de voir quels sont les objectifs stratégiques, qui interagit avec la communauté universitaire, avec les chercheurs, apparaissait un petit peu aberrant. Moi-même, j'avais travaillé pendant mes études et effectué des séjours aux États-Unis, notamment dans un centre de recherche.
Car ce que vous êtes formé aux États-Unis.
Non, je me suis pas formé aux États-Unis.
Non, je dis ça pour vous provoquer un peu, parce que le CAP a eu une réputation un peu de faire une sorte de liaison particulière avec l'équivalent américain, c'est-à-dire, j'allais dire, le prédécesseur, voire le supérieur. Non, je me trompe.
Non, le centre d'analyse et de prévision a été influencé intellectuellement par cette approche qui est une approche qui est née aux États-Unis d'interaction entre la pensée des chercheurs, des universitaires et l'action. Et ça s'est traduit et avec des va-et-vient, avec un rôle essentiel de cette structure, de ces structures très proprement américaines mais qui sont répandues dans le monde, qui sont les think tanks. Donc, que ce soit la Rand Corporation, la Brookings, le Center for Strategic International Studies.
Oui, dont nous n'avions pas alors, à cette époque, l'équivalent.
Non, nous n'avions aucun équivalent. Ensuite, on a créé l'IFRI, qui est l'équivalent français du Council on Foreign Relations, il y en a eu d'autres, mais à l'époque, il n'existait pas grand-chose. Donc l'idée de base du Centre d'analyse et de prévision, c'est de créer une structure de réflexion stratégique présentant une analyse indépendante, bénéficiant de l'ensemble des structures, des informations recueillies, c'est-à-dire les informations officielles, diplomatie, éventuellement renseignement, et les informations nées de tous les experts qui existent sur les crises, les situations géographiques, les grands mouvements internationaux. Ces experts peuvent être universitaires ou d'ailleurs des grands journalistes. Nous avons beaucoup interagi au centre d'analyse et de prévision avec des grands journalistes.
Alors, avez-vous l'écoute, l'oreille du ministre, du président ? Est-ce que vous avez le sentiment que, autrement dit, vous avez fait œuvre utile, mais d'abord œuvre, opération. Avez-vous été opérationnel ?
La réponse est oui, c'est ce que je voulais dire, c'est un certain nombre de cas concrets, nous avons influencé, pour reprendre votre expression, influencé la prise de décision, ou accéléré des décisions qui seraient peut-être prises, mais qui auraient été prises plus tard. Alors, exemple, je reprends mon exemple, prolifération nucléaire, ça se passe au début du règne. Nous avions été créés par Michel Jobert, maintenu ensuite par le nouveau ministre qui a succédé à Michel Jobert, Jean Sauvagnac, en fait par son tout-puissant directeur de cabinet, Maurice Ulrich, qui a été en quelque sorte un second parrain du CAP après Michel Jobert. Et nous avons... Il y a ce dossier sur la prolifération. Alors, il y a un grand débat. Le débat oppose, d'un côté, le sous-directeur chargé des affaires nucléaires, qui est très sensible aux arguments américains et qui considère que son rôle est de lutter contre la prolifération, à beaucoup de gens au Quai d'Orsay qui se disent « on ne se mêle pas de cette affaire ». On n'y participe pas, ou on refuse même. L'idée, c'était qu'il y ait des règles sur l'exportation des matières nucléaires. Et puis, le commissariat à l'énergie atomique, dirigé par une très forte personnalité, avec qui j'avais d'ailleurs l'honneur de pouvoir interagir, parce qu'il m'avait mis dans un groupe consultatif auprès de lui, André Giraud, et qui lui disait, au nom de l'indépendance, on soutient tous ceux qui nous imitent. Alors, il ne disait pas que la prolifération, c'est bien, mais en tout cas, c'était une neutralité bienveillante. Donc, c'était la situation. Et ce que, donc, à l'époque, j'étais le directeur adjoint, j'avais cofondé auprès, avec Thierry de Montbrial le Centre d'analyse de prévision, j'étais l'adjoint de Thierry de Montbrial, je suivais les questions stratégiques, dont la prolifération. Et j'ai essayé de faire une analyse partant de l'intérêt national. Ben, l'intérêt national de la France, c'est évidemment qu'on a un statut, c'est pas que ce statut soit reproduit par tout le monde. En plus, il est évident que plus il y a d'acteurs nucléaires dans le monde, plus la probabilité d'une guerre nucléaire augmente. Ce n'est pas besoin d'être un grand stratège pour savoir ça. Donc l'intérêt national de la France est d'éviter la prolifération nucléaire, indépendamment de toute considération idéologique, etc. De même d'ailleurs que l'Union soviétique, à l'époque, avait conclu ça, et la Russie a maintenu cette politique, en ayant une politique très ferme vis-à-vis de l'Iran, par exemple. C'est du bon sens, mais ce bon sens n'était pas du tout, l'objet d'un consensus.
D'accord. Et ça, cette influence, elle se manifestait par des conversations avec le ministre, avec le président, des notes.
Des notes. Et les notes, il faut toujours présenter l'analyse. Et ça, j'ai appris ça aussi dans l'industrie, et même dans mon activité actuelle de consultant industriel. Il y a la question de l'opportunité dans le temps. C'est-à-dire, c'est très bien d'avoir une idée, mais il faut qu'elle arrive à un moment où elle correspond à un besoin, à une urgence.
Et donc, une note, c'est combien de pages?
Une note, c'est... Il ne faut pas qu'elle soit trop longue. À l'époque, ça s'est beaucoup restreint dans la suite, mais à l'époque, on pouvait faire des notes de 4-5 pages.
Maximum, 4-5 pages?
Oui, à l'époque.
Moi, à mon époque, c'était 2 pages,
c'est
maximum.
Ça. Ensuite, ça s'est beaucoup réduit. Mais en l'espèce, je vais vous dire, c'est une note que j'ai faite à l'occasion d'un sommet important, qui était un sommet entre le président Ford le président Giscard d'Estaing, je crois que c'était à la Martinique, après la démission de Nixon. Ouais. Et on savait que les Américains allaient mettre le paquet pour qu'on rejoigne les négociations qui allaient s'ouvrir à Londres et qu'on soit ouvert sur des règles d'exportation des matériaux nucléaires. Et donc, moi, l'analyse à ce moment-là que j'ai rédigée était très simple. Un, l'intérêt national de la France, c'est pas la prolifération. Deux, si on change de politique, on va évidemment pas le faire sans contrepartie. Les contreparties, elles étaient évidentes pour moi, elles étaient dans un domaine connexe, où en plus les choses avaient déjà commencé sous De Gaulle, initiées par De Gaulle et poursuivies par Michel Debray, ministre de Pompidou, c'est-à-dire la coopération nucléaire militaire avec les États-Unis. Les États-Unis pouvaient nous aider à accélérer le développement de notre force de dissuasion. Il y a des lois qui leur interdisaient de tout ce qui concernait les matériaux nucléaires, mais ces lois n'interdisaient pas une coopération, notamment dans le domaine des missiles balistiques. Je ne rentre pas dans les détails.
Non, ne rentrons pas trop dans les détails. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'infrastructure matérielle de l'influence intellectuelle.
Donc,
La note est sur le bureau de Giscard d'Estaing, du ministre d'abord.
La note est sur le bureau du ministre.
Qui lit,
mais je pense surtout que j'ai même des très bonnes raisons qu'elle a été transmise à l'époque à l'Élysée.
D'accord. Oui. Bon.
Donc cette note proposait un deal. Elle disait il faut contribuer à la prolifération nucléaire, mais il faut que notre changement de politique bénéficie d'une contrepartie dans le domaine de la coopération nucléaire militaire. Bon, ça a été, je crois, en gros, cette note, à mon avis, je ne dis pas que d'autres ont peut-être dit la même chose, je ne prétends pas du tout la paternité, mais je pense qu'elle a été dans le bon sens, elle a joué un rôle. Changement de politique. Donc, un exemple qui est très clair. Deuxième exemple, c'est la contribution à toute une action commune que vous avez vécue de près. C'est celle, la position du président Mitterrand, qui, au moment sur l'affaire des euromissiles, discours du Bundestag, et où là, c'est une œuvre collective, où nous avons participé, à laquelle j'ai participé. Mais ensuite, j'ai plus particulièrement travaillé avec, à l'époque, c'était surtout avec le directeur politique et avec François Hesbourg, Jacques Andréani et François Hesbourg, conseiller ministre de la Défense, à une relance du volet militaire de la coopération franco-allemande. Et là, c'est un cas très précis. Le timing est bon, on a le 30e anniversaire du traité de l'Élysée, on a le 20e anniversaire du traité de l'Élysée, il faut qu'on relance, qu'on fasse quelque chose. Et on aboutit à infléchir comme ça.
Oui, moi ce qui m'intéresse, c'est, Jean-Louis Gergerin, c'est, indépendant du contenu concret de telle ou telle politique, c'est le mécanisme. Le mécanisme de l'efficacité dans les rapports entre, pour aller vite... l'abstrait, le concret, la pensée et l'action. Bien sûr, la pensée du CAP n'est pas purement philosophique. Elle ne vient pas de la lecture des livres, elle vient du renseignement et du contact avec les pratiques. Mais tout de même, il y a un passage par le moment théorique. Ce qui suppose que les praticiens, c'est-à-dire ceux qui sont aux affaires, aux manettes, puissent avoir une certaine considération vers ce type de réflexion. De développement intellectuel. Mais alors aujourd'hui, j'ai lu un article de vous récemment dans l'excellente revue Commentaire, enfin parfaitement aronienne, consensuelle, tout à fait atlantiste, enfin ça c'est, chacun fait, pense comme il veut. Et c'est un article très intéressant. Et puis sur Obama qui, pour aller vite, laisse un peu l'Europe de côté pour aller vers d'autres fronts, notamment asiatiques, et vous dites, il serait hautement souhaitable que, on pourrait envisager que, qui est ce on, il serait hautement souhaitable pour qui, c'est-à-dire, est-ce quand vous écrivez une réflexion informée, judicieuse de ce type, vous en attendez un résultat, et en a-t-elle, ou peut-elle encore en avoir aujourd'hui?
Bon. Aujourd'hui, je ne suis plus... fonctionnaire, je ne suis plus conseiller du ministre des Affaires étrangères, je suis enseignant à Sciences Po et j'écris des articles, je participe à la réflexion stratégique. Quand je dis « on », ça veut dire je lance des idées, ça ne veut pas dire que je renonce à ces idées. Et
on est bien d'accord, on a tous des idées sur la situation dans le monde et le cours des choses. Mais la question est de savoir laquelle de ces idées peut avoir une conséquence.
Par exemple, une des idées que j'ai exprimées et à laquelle je continue à croire toujours, c'est d'avoir une intégration des stratégies françaises et allemandes sur l'ensemble des problèmes posés par le terrorisme et aussi également, j'avais dans un article précédent, proposé par les menaces en termes de cybersécurité, où c'est évident que c'est beaucoup plus facile entre Français et Allemands qu'entre Français et Britanniques, parce que les Britanniques sont irrémédiablement liés aux États-Unis. Et ils font partie d'un club, on ne rentre pas là-dessus.
Ils viennent de le montrer,
Et ils viennent encore de le montrer. Et donc, quand je disais « on », je vous donne un exemple. Quelques temps après, non pas cet article-là, mais un article précédent où je parlais d'une intégration des capacités de cyberdéfense française et allemande, j'ai rencontré le délégué général à l'armement dans une manifestation, une remise de décoration. On a eu une longue discussion là-dessus. Bon, je ne l'ai pas convaincu, il avait des arguments en sens inverse, mais si vous voulez, l'idée c'est à partir du concept, dès qu'on a l'occasion de défendre ce concept, le présenter à un décideur et en discuter avec lui.
Oui, ce qui suppose un décideur tout de même un peu cultivé, un peu curieux et un peu ouvert à la lecture et pas seulement au spectacle du grand ou du petit écran. Alors maintenant, permettez-moi, mon cher Gergerin, une petite réflexion critique. Vous parlez fort bien, et je vous lis et je vous écoute, de nos capacités, de nos forces, de nos dispositifs de défense. Mais je me demande si ce n'est pas là une vision un peu trop, superficielle. Je veux dire militaire, sécuritaire, mais qui ne va pas en profondeur, je dirais, dans les motivations psychologiques de l'adversaire, en l'occurrence l'adversaire djihadiste, qui ne prend pas en compte les héritages culturels du dit adversaire. Autrement dit, j'ai l'impression que certaines réflexions stratégiques à l'américaine, mais aussi à la française, ne va pas jusqu'aux couches profondes de la tectonique des sociétés, ne va pas jusqu'aux couches profondes de l'être humain qui concerne ses croyances, sa langue, ses traditions, et qui amène d'ailleurs parfois à cette sorte d'unilatéralisme insensé des expéditionnaires occidentaux qui débarquent dans un pays dont ils ignorent tout, que ce soit la Libye, l'Afghanistan ou l'Irak. C'est-à-dire, voilà, est-ce que vous avez conscience, ou est-ce que je me trompe tout simplement, que il ne faut pas être de ceux qui regardent le monde du haut d'une terrasse, comme disait Giraudoux, c'est-à-dire qu'il faut aller un peu derrière ce qui est militaire, ce qui est politique, pour aller un peu plus haut dans la généalogie des choses.
Mais je veux dire, alors je vais peut-être vous surprendre, mais je suis en accord absolu avec vous. Et dès le départ, je veux dire, le Centre d'analyse et de prévision a intégré des consultants, des conseillers, qui avaient une vision bien au-delà des aspects purement diplomatico-stratégiques, qui étaient des politologues qui avaient aussi une dimension anthropologique, sociologique. Vous vous souvenez que le responsable longtemps de l'Amérique latine, après, qui a suivi ensuite par une brillante carrière diplomatique, Alain Rouquier, était un spécialiste extraordinaire de l'ensemble de ce qui constitue les sociétés d'Amérique latine.
Vous me rassurez, Jean-Louis Gergorin. Jean-Louis Gergorin, pourquoi vous avez choisi cette musique d'Éric Satie ?
Écoutez, j'ai eu la chance, grâce à mon fils, qui a été son récent biographe, de redécouvrir et d'approfondir Éric Satie. Et il y a beaucoup d'œuvres que j'aime beaucoup, mais alors celle-ci me plaît musicalement, elle est très, très allante, et puis son titre est merveilleux. Il me paraît une excellente synthèse de ce que nous voyons sur la scène tragique géopolitique actuelle. C'est le chant guerrier du roi des haricots. Et je crains que malheureusement, depuis en particulier une quinzaine d'années, hein, depuis l'après le 11 septembre et ce qui a suivi, il y a beaucoup de rois des haricots qui poussent des chants guerriers qui les ont amenés notamment en Irak, en Libye et autres lieux.
Alors souvent, les rois des haricots provoquent la fin des haricots. Mais je vais, avant d'aborder les tragédies d'aujourd'hui, je vais vous demander de répondre à une curiosité que j'ai. Dans vos articles sur la politique extérieure américaine, vous montrez à quel point la notion des intérêts nationaux américains est fondamentaux, et notamment chez Obama. Ne cache pas que pour lui, la défense du homeland, la défense du territoire et du peuple américain est prioritaire. Et je me demande au fond, et son refus d'ailleurs de l'engagement militaire direct, comme vous l'expliquez très bien, fait partie de cette sauvegarde, je dirais, en français, du précaré. Pourquoi nous, Français, avons tellement de peine à admettre cette dimension nationale, à utiliser le mot même d'intérêt français, d'intérêt nationaux? Est-ce que vous n'êtes pas sensible à ce décalage entre les deux diplomaties?
Premièrement, c'est ce décalage, c'est une question aussi de formulation. Je pense que ce qui nous distingue, De Gaulle n'utilisait pas le mot intérêt national, probablement, à mon avis, l'utilisait peu parce que c'est pas un mot qui devait lui plaire beaucoup, le mot intérêt.
Oui,
mais il parlait d'indépendance. Et de toute façon, tout le monde le comprenait. On n'avait même pas besoin de le dire, tout le monde le comprenait. Je pense que ça traduit un manque de confiance. Et le drame, c'est que nous avons perdu confiance en nous-mêmes. la confiance dans notre destinée, dans notre rôle, notre fierté, et qu'il faut la rétablir. Et là, je pense que c'est un point central, ce qu'ont les États-Unis, ce qu'a la Grande-Bretagne. Il faut regarder le discours de Theresa May. Je veux dire, c'est l'intérêt national, la fierté britannique. Ce qu'a de nouveau l'Allemagne. Il faut voir les discours, y compris de quelqu'un de très modéré et qui est un grand diplomate et un homme de paix, Monsieur Steinmeier, le ministre des Affaires étrangères, mais il parle de l'intérêt allemand. Donc, je crois qu'effectivement, il y a un problème de confiance et de fierté nationale à rétablir.
Oui, je pense que vous avez raison, mais qu'il y a tout de même une généalogie à cet embarras devant le mot intérêt et qui est tout simplement l'universalisme abstrait d'une certaine tradition philosophique qu'on retrouve d'ailleurs dans la Déclaration des droits de l'homme, n'est-ce pas, et du citoyen. Mais je veux dire, cette idée que la France est le soldat de l'humanité, puis le soldat de Dieu, dira un jour, je ne sais plus qui, Clémenceau peut-être, même s'il ne croyait pas en Dieu. Bref, cette idée que la France a une sorte de mission à elle dévolue qui est de s'installer dans la défense du genre humain, n'est-ce pas ? Ce qui fait d'ailleurs qu'on est aujourd'hui, même si on n'est plus tout à fait dans cette ligne, ce qui fait que nous sommes très en retard par rapport, au retour aux fondements nationaux qu'on voit dans tous les pays, quelle que soit leur idéologie, d'ailleurs, Chine ou États-Unis. Mais puisque nous sommes les alliés, moi je dis les vassaux des États-Unis, mais vous dites le mot allié, qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a plus cette conviction dont vous parlez, cette confiance en soi face à une nation, la nation américaine, dont il est évident qu'elle est imbue ou convaincue tout simplement d'avoir une destinée manifeste qui la met au-dessus des autres nations, qui lui donne une sorte de, je dirais, de supériorité métaphysique, ontologique, et qui lui donne le droit de faire ce que d'autres ne peuvent ou n'osent pas faire. Comment peut-on faire face à une sorte de conviction suprématiste, n'est-ce pas, que nous, on est souverain, mais vous ne l'êtes pas, voilà, et on est souverain pour votre bien. Que pourrait faire une diplomatie française devant cela ?
Non, face à cela, il y a toujours le refus de participer à des choses que nous réprouvons. Et puis, il y a l'explication pédagogique. Et vous avez quand même deux grands moments de nature différente. L'un, absolument évidemment extraordinaire, qui est le modèle du genre, qui est le discours de Phnom Penh, qui est la France, dit aux États-Unis, mais en tant qu'allié, pas du tout pour... pourquoi cet engagement au Vietnam est un désastre, est totalement contre-productif et se terminera mal. Il le dit à côté, à Phnom Penh, avec force, mais sans agressivité, de façon pédagogique. Et il faut toujours voir, on oublie, il y a le discours de Phnom Penh et il y a le triomphe du discours de Phnom Penh, c'est quand Nixon, son premier voyage, alors qu'il est élu président des États-Unis, c'est à Paris. Et il passe des heures avec De Gaulle. Hein. C'est ce genre de rencontres chronométrées qu'on a actuellement. Et il se trouve qu'il y a eu notamment des ouvrages de Vincent Nouzil qui donne le compte-rendu de ces réunions qui est absolument fabuleux.
Rappelez-nous la date à laquelle nous sommes.
Nous sommes au mois de février ou mars, je ne sais plus, c'est février ou mars 1969. Donc très peu de temps avant le départ du général. Et c'est le premier voyage à l'étranger de Richard Nixon, oui, qui est devenu président le 20 janvier. Oui.
C'est très symptomatique. C'est-à-dire que quand on ose dire la vérité, on peut être écouté. Alors qu'aujourd'hui, on craint de le faire. Mais il y a aussi eu le discours de...
Et le discours, j'allais le dire, le deuxième exemple, c'est le discours de Dominique de Villepin.
Le grand exemple.
Également, en mars 2003, voilà. Reflétant une position conjointe de Jacques Chirac, de Jacques Chirac et Dominique de Villepin, totalement prophétique. Ouais. Puisque je dirais que tout y était, dans les différentes interventions de Chirac et de Villepin de l'époque, y compris dans des conversations moins officielle, moins publique, l'annonce de cette espèce de guerre de religion et de ce qui est devenu Daesh est liée de façon absolument prophétique. Oui. Et ce qui est absolument extraordinaire d'ailleurs, c'est que nous ne nous avons pas rappelé cela maintenant que ce n'est pas reconnu, si vous voulez.
Parlons alors des tragédies du jour, si j'ose dire. Il y en a une particulièrement affreuse, c'est la Syrie. Qu'est-ce qu'on peut dire de... à la fois de l'attitude française vis-à-vis de la tragédie syrienne et, je dirais, d'une certaine impuissance de la diplomatie internationale. Comment vous analysez cette sorte de, disons, de ce fait de patiner comme ça, de tourner en rond, d'employer des phrases creuses qui ne débouchent sur rien, quel serait le réalisme en Syrie?
Le drame de Syriens, il a une cause essentielle. Je ne parle pas des acteurs, dont certains sont particulièrement néfastes et sans scrupules, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que l'asymétrie, le drame syrien pouvait être enrayé si les pays occidentaux, et donc ce n'est pas la France, c'est les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, et les autres pays occidentaux, n'avait d'emblée essayé d'imposer une vision idéologique de ce qui se passait et de tout faire pour que la réalité se conforme à cette vision idéologique. Et cette vision idéologique était de croire, il y a eu d'abord une espèce de croyance dans le printemps arabe, bon, ce qui est tout à fait souhaitable, mais il y a eu des aspects immensément positifs, notamment en Tunisie, qui est la seule démocratie qui a survécu au printemps arabe, et de croire que ce qui se reproduisait en Syrie, c'était la reproduction. Et effectivement, les jeunes Syriens qui manifestaient, la jeunesse qui demandait la démocratisation, ils ne demandaient pas beaucoup. C'était extrêmement sympathique.
Oui, pour résumer les choses sous l'angle sympathique de l'opinion publique, c'était démocratie contre dictature.
Il y a un
méchant dictateur, et il y a en face de lui des démocrates, jeunes et moins jeunes, qui se soulève contre la tyrannie. C'était un peu, je dirais, le modèle traditionnel, binaire, manichéen, vendeur, parce que très à la fois affectif et mémoriel, qui aujourd'hui, dont il est normal que ce modèle simpliste soit celui, je dirais, du téléspectateur, du citoyen ordinaire, dont il n'est pas normal qu'un appareil diplomatique le fasse sien, c'est-à-dire ne soit pas au courant de la complexité tout de même locale.
Et là, on a des diplomaties qui... D'abord, il y a cet a priori, c'est la poursuite du printemps arabe. Donc, et lorsque ce dictateur choisit l'escalade, parce qu'en fait, il considère que sa minorité, alaouite, risque d'être massacrée s'il lâche quoi que ce soit, et il décide de jouer la provocation, il libère... au printemps 2011, il libère des djihadistes qui vont devenir le noyau des deux groupes djihadistes Al-Nusra et Daesh. Et il joue l'escalade et il s'appuie à fond et il ne survit que parce que vous avez deux puissances qui considèrent qu'il est vital, que c'est un intérêt vital, national et vital, qu'il ne tombe pas. Ces deux puissances, c'est la Russie et l'Iran. Ces deux puissances sont une capacité importante, même la Russie n'est pas engagée, mais elle le soutient au maximum. L'Iran est engagé tout de suite via le Hezbollah.
Or, on ne les a pas pris en compte, ces deux réalités nationales,
si
l'iranienne
voulait,
et...
Il fallait négocier tout de suite avec ces deux parrains du régime syrien, négocier, alors ça ne veut pas dire ne pas prendre des positions de force, mais au moins considérer qu'on n'y arrivera pas sans eux. Et on s'est lancé dans des processus très tardivement onusiens. Et en fait, on avait l'idée que Assad allait tomber. Et il y a eu une espèce d'illusion lyrique successivement, sous la fin du président Sarkozy, de la présidence Sarkozy et pendant la période présidence Hollande, au début de la présidence Hollande, que Assad allait tomber. Donc, ce n'était pas la peine d'accepter. Il y a eu un moment où les Russes étaient prêts à faire quelque chose. Je ne sais plus si c'est 2012, 2013. Mais il fallait... il fallait accepter vraiment de rentrer dans le jeu, de considérer que c'était l'interlocuteur égal. Et ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait et on les a traités un peu par prétérition.
Pourquoi cette peur? Parce qu'ils avaient très mauvaise presse,
non,
l'Iran,
pas
à l'époque.
Peur. Je pense qu'on sous-estimait... Attendez, c'est de la pure analyse. Justement, on avait une vision tellement idéologique qu'on n'analysait pas les rapports de force. Et les rapports de force, c'était que les Iraniens étaient très présents sur place et l'appui russe était essentiel. Ils n'avaient pas encore de moyens militaires à la survie du régime syrien. Et donc, on a cru qu'on pouvait ignorer tout cela. On a ignoré les rapports de force, on a ignoré la réalité du terrain. Et en fait, plus, plus, en fait, la violence de la répression par Assad, avec le soutien russo-iranien, signifie que les rebelles modérés sur lesquels l'Occident s'appuyait ont été laminés, et de plus en plus, les djihadistes sont apparus, et le point que dans l'article que vous évoquiez, auquel je fais allusion, il y a eu ce phénomène dramatique qui a été l'attraction exercée par la rébellion syrienne dans ses éléments les plus djihadistes sur beaucoup de jeunes dans le monde entier, avec attraction nourrie par une propagande sur Internet extrêmement bien faite et par les atrocités réelles du régime Assad. Et au lieu on voit notre intérêt vital, quand j'ai écrit cet article, il était en jeu, il était déjà en jeu dès 2012. Il fallait tout de suite considérer que c'était prioritaire d'arrêter ce conflit pour des raisons à la fois humanitaires, de toute évidence, on n'était pas encore assez, et pour des raisons d'intérêt stratégique. Et la seule façon de l'arrêter, c'était de considérer, de se mettre autour de la table avec les Russes. Alors, il y avait, les Iraniens, c'était un peu compliqué tant qu'il y avait Arménie et Djad, mais à partir du moment où on a eu Rouhani, il fallait évidemment mettre les Iraniens dans le coup.
Qu'est-ce qui nous a empêchés de faire ces actes de bon sens?
Oui.
De reconnaître.
On le faisait, mais on l'a fait dans le cadre des Nations Unies, dans des processus extrêmement compliqués, avec des médiateurs qui étaient impuissants.
Alors que les Américains, eux, quand leurs intérêts sont en jeu, ils ne s'embarrassent pas ni de l'ONU, ni de ces médiations.
Il y a eu, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas dans mon article, je pense peut-être qui était implicite, mais il y a eu auquel j'ai beaucoup réfléchi. Il y a eu une opportunité manquée. L'opportunité manquée, c'est lorsqu'il y a eu l'affaire de l'utilisation d'armes chimiques par l'armée d'Assad, par les forces d'Assad, en 2013. Et lorsque il y a eu un accord russo-américain, les Russes ont proposé aux Américains, les Américains voulaient faire une frappe préventive, qui, entre parenthèses, aurait affaibli le régime Assad, mais qui ne l'aurait pas fait tomber, mais qui n'aurait pas nécessairement détruit les armes chimiques.
Surtout quand on bombarde des armes chimiques, j'imagine que les armes chimiques se répandent un peu partout, non?
En tout cas, mais il faudrait que c'était très bien fait. Bon. Je vais passer en cause, mais les Russes ont proposé un accord, que les Américains ont accepté, mais là, il fallait tout de suite ne pas se limiter aux armes chimiques. Il veut dire reconnaître le rôle central des Russes, puisqu'on négocie, les Américains négocient avec eux, et étendre ça... imposer un cessez-le-feu en même temps.
Les influenceurs n'ont pas...
Et quitte à utiliser la menace, d'ailleurs, ouais. Vis-à-vis des Russes, parce que les Russes, c'est très sensible. Vous voulez éviter ces bombardements, de ces bombardements. On n'a pas joué du rapport de force, on n'a pas joué... C'était une extraordinaire hypocrisie. On a considéré que c'était l'utilisation des armes chimiques. C'est horrible, c'est l'horreur des horreurs, mais que l'utilisation, par exemple, par les forces d'Assad, de barils enflammés jetés sur les populations civiles, c'est pas un problème. Je veux dire, c'est assez hallucinant. Et on a loupé une occasion. On l'a loupé complètement. C'est la dernière occasion qu'on avait d'arrêter les choses et d'avoir un rapport de force équilibré. Et à partir d'un rapport de force équilibré, de pouvoir négocier. Et depuis, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe à la suite, on ne va pas revenir sur les détails, mais le rapport de force a changé. Le rapport de force a changé sur le terrain parce que les Russes sont intervenus militairement il y a un an, massivement. En termes de bombardement, ils sont engagés, ils ont préempté les Américains sur place. Depuis, les idées de zones de protection, etc., aériennes, ne marchent plus. Et surtout, il y a un mois, deux mois, avec le coup d'État turc, le rapprochement entre turco-russe, le rapport de force est totalement en défaveur de la rébellion syrienne.
Revenons aux causes de tout cela. Est-ce que... nos initiatives ou nos absences d'initiatives diplomatiques ne viennent pas de ce que Tocqueville appelait la subordination dans les démocraties des affaires du dehors aux affaires du dedans. Autrement dit, est-ce que l'influence, notamment médiatique, c'est-à-dire de l'opinion, ne joue pas, de l'opinion intérieure, ne joue pas un rôle croissant sur... Nos décisions politiques extérieures. Autrement dit, est-ce que l'extérieur est sous la dépendance de l'intérieur, comme l'avait redouté, annoncé Tocqueville?
Alors, je veux dire, c'est une tendance forte qui n'a cessé de croître, et avec des dirigeants qui sont obsédés par les sondages, qui sont obsédés par la réaction des médias. Alors autrefois, les dirigeants voulaient regarder l'éditorial du Monde. Mais depuis maintenant, c'est les réseaux sociaux, les médias, les sondages immédiats. Et c'est ce que vous dites d'ailleurs. Vous avez quelqu'un qui dit la même chose que vous et qui dit que c'est une tendance très grave. Alors lui, il ne pense qu'aux États-Unis, mais elle s'applique évidemment à toutes les grandes puissances démocratiques. C'est Kissinger. Et Kissinger dit le poids de l'intérieur ne cesse de croître et jamais il n'a été aussi grand et il continue à croître dans les décisions de politique étrangère.
C'est le grand handicap des démocraties par rapport aux autocraties qui, elles, ont le temps, ont la durée et n'ont pas à se soucier, je dirais, des émotions, des réactions émotives ou des emballements de leur opinion. Alors, mais est-ce qu'un pays comme la France, moi je vais vous poser la question à 100 000 dollars, comme on dit. Est-ce qu'on a dit un pays comme la France, qui n'est plus dominant, qui n'est même plus, je dirais, qui ne se sent plus habilité à défier les dominants, est-ce que on peut encore avoir une diplomatie en France, aujourd'hui, en 2016?
Je pense que nous pouvons avoir une diplomatie. D'abord, on a une réputation, on a notre siège au Conseil de sécurité qui nous donne un poids non négligeable.
Ah, si on sait l'utiliser, si on peut l'utiliser, si on veut l'utiliser.
On l'a utilisé en 2003.
Absolument.
On a une série de gens dont on est proche, bon, qui quand même nous suivent. Aux Nations Unies, ça peut jouer. Et on a une capacité militaire. Elle n'est pas négligeable, elle n'est pas autonome, pas pour des raisons, tout simplement parce que nos moyens sont insuffisants. Et il est clair qu'on a laissé notre défense s'éroder et qu'on est en dessous du seuil critique par rapport aux menaces telles qu'elles se présentent. Notamment, il y a un effort considérable à mener. Et le drame de la France en politique étrangère, c'est que la condition essentielle pour mener une politique étrangère indépendante, même quand on n'a pas la taille d'une superpuissance, c'est d'avoir quand même une économie saine. Je vous rappelle que, à mon avis, la chose la plus importante que De Gaulle a faite, qui lui a permis, sur laquelle il a basé tout ce qu'il a fait en matière de politique d'indépendance nationale, ça a été le redressement des finances auquel il a procédé dès son arrivée. Et celui qui a le plus servi, ça a été Jacques Rueff. La commission Rueff-Armand, les mesures, la restauration, l'élimination des déficits ont été centrales. Concluons. La France est totalement handicapée par cela actuellement.
Concluons provisoirement qu'il n'y a pas d'action diplomatique sans deux sortes d'instruments, militaires d'abord, économiques ensuite. Au fond, qu'il n'y a pas de diplomatie là où il n'y a pas d'armée, à moins de faire de la musique sans instrument de musique, et qu'il n'y a pas non plus de force de décision internationale sans une économie. Nous parlerons de tout cela avec le général Desportes, notamment au plan de l'outil militaire.
Moi, je voudrais juste rajouter à l'outil militaire ce que vous avez vous-même dit, Régis, l'importance de l'analyse intellectuelle, de l'analyse. Et je pense que sociologues, politologues, l'université ont un rôle clé, et notamment face aux défis djihadistes, tous ceux qui analysent, je pense à Gilles Kepel, entre autres, la base de l'idéologie de ceux qui veulent se confronter avec nous est essentielle.
C'est la raison d'être de cette émission. À bientôt, Jean-Louis Gergorin.
À bientôt, Régis.
Les discussions du soir, Jean-Louis Gergorin, Pascal Bénard, Laurence Venpin. Anne-Pascale Desvignes et Régis Debray.